Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, une trentaine de minutes en podcast, on va poursuivre les rencontres entamées la semaine dernière avec des actrices et acteurs des civic tech en Afrique francophone. Ces gens qui s'emparent des outils numériques pour le bien commun.
Comme on dit, l'information c'est le pouvoir. Mais lorsqu'on a l'information que ça ne surfrule pas, ça ne sert à rien.
Exceptionnellement, on va débuter cette émission par Mondoblog Audio, qui fait entendre chaque semaine la voix des blogueurs francophones de RFI. Ousmane Machiavelli, un de nos blogueurs maliens, nous a envoyé il y a quelque temps maintenant un audio qui constitue une introduction parfaite à l'émission que vous êtes en train d'écouter.
RFI. Il y a lieu de s'interroger sur les activistes ou pseudo-activistes qui pullulent sur les réseaux sociaux au Mali. En suivant ces activistes web, on se rend compte qu'ils se limitent à des propos délateurs. Ils décrivent une situation déjà connue de tous et sont enfermés dans des critiques infécondes. Ils oublient d'imaginer des solutions ou même d'entreprendre des actions concrètes, mais protester sans proposer une alternative ne sert à rien. Pour d'autres, le militantisme en ligne est un moyen de s'enrichir. Ils dénoncent pour s'assurer les largesses des politiques dont ils véhiculent les propagandes. Pour eux, la notoriété numérique n'est qu'un gagne-pain. Ils se livrent au service des plus offrants. Ce sont des marionnettes qui alimentent des débats stériles. Faire de l'activisme en ligne pour la réputation et les opportunités, ce n'est pas ce dont le Mali a besoin. Le pays manque d'une armada de véritables activistes, des citoyens engagés qui produisent du contenu utile et éclairant et qui les partagent. Avec du décryptage et de la vulgarisation, on peut faire évoluer les mentalités et inciter au changement des comportements. Il faut aussi proposer des solutions concrètes et agir. Le problème, c'est que beaucoup d'activistes évoluent individuellement et ne se soutiennent pas les uns et les autres, ce qui réduit la portée des luttes entreprises. L'absence de solidarité fait que les web activistes ne constituent pas une véritable force pour influencer les politiques ou mener une révolution sociétale. Le Mali requiert des gens qui s'unissent sur le web, qui créent des projets utiles. Le Mali a besoin de ceux qui créent des labs, des applications innovantes qui répondent aux besoins du peuple. Parce que être activiste, c'est agir. C'est initier des projets web qui facilitent l'éducation, aide à la promotion de la culture, appuie le secteur de la santé. C'est construire des startups qui créent de l'emploi. C'est grâce à eux que le pays pourra initier des actions concrètes de développement.
Mondoblog.org. La voix et les convictions du mondoblogueur malien Ousmane Machiavelli introduisent cet atelier des médias de RFI que nous allons consacrer au Civic Tech vu du Mali. Je vous propose d'écouter cette semaine les partages d'expériences de deux acteurs de la société civile au Mali qui agissent concrètement sur le numérique. Tous deux participaient fin juin à Abidjan au premier forum Civic Tech en Afrique francophone organisé par CFI. Tout à l'heure, Tidiani Togola, créateur de la fondation Too Windy, basée à Bamako, expliquera pourquoi les civic tech et les médias doivent se développer ensemble et en quoi le contexte malien comporte des défis spécifiques. Mais d'abord, partons à la rencontre d'une femme dont l'engagement force le respect. Fatouma Harber est enseignante, blogueuse et militante pour les droits de l'homme à Tombouctou, dans le nord du Mali. C'est une activiste numérique reconnue dans sa région et dont la démarche inspire bien au-delà. Écoutez-la revenir sur son parcours qui a débuté en 2012 lorsqu'elle a rejoint Mondoblog alors que le Mali était en pleine insurrection. Écoutez-la raconter comment elle a créé Sankore Labs, un tiers-lieu créé pour réduire la fracture numérique devenue point de ralliement de la jeunesse de Tombouctou. Écoutez-la expliquer comment, malgré les menaces, elle réussit à faire bouger les lignes pour un avenir meilleur. Écoutez Fatouma Harber.
Tout est parti d'un bloc. En 2012, juste à la veille de l'occupation de Tombouctou par les djihadistes, j'ai créé mon blog sur Mondoblog. Et je voulais vraiment utiliser cette plateforme pour parler des droits des femmes au nord du Mali. Mais la situation a changé. Mon blog a pris vraiment une autre configuration et là, il s'agissait de parler d'abord de la situation que nous vivions en 2012, d'avril jusqu'à janvier 2013. Ensuite, vraiment, mon blog est devenu comme un outil d'engagement, non seulement pour les droits des femmes, mais aussi un outil d'engagement citoyen. À travers aussi ma présence sur les réseaux sociaux, il s'agissait vraiment de poser des questions demander des comptes à nos dirigeants et aussi parler beaucoup des droits des femmes maliennes qui sont vraiment beaucoup mises en marge de la société.
Donc d'enseignante et de blogueuse, vous êtes devenue une vraie activiste au Mali?
Oui, oui, vraie activiste. C'était important pour moi parce que en 2012, il n'y avait carrément aucune presse sur place. Et la seule communication qui filtrait, ou bien les seules informations qui filtraient, c'est à travers les posts ou bien les tweets que je faisais ou bien d'autres personnes faisaient sur Facebook ou bien sur Twitter. Il y avait très peu de personnes.
Donc vous étiez comme coupée du monde?
Oui, carrément coupée du monde. Et chaque fois, j'avais des doutes sur les informations qui passaient. Des informations manipulées qui étaient dites sur la réalité. Et donc moi, il me fallait bloguer pour non seulement parler de ce qu'on vit réellement, mais aussi un peu faire mieux connaître cette vieille ville qui, dont le nom est un peu connu de tout le monde, mais que tout le monde ignore ou bien qui est comme abandonnée en réalité. Je me suis aussi engagée sur d'autres sujets, notamment sur le coût de l'Internet qui était vraiment trop au Mali à ce temps-là, et avec notamment notre initiative Dièse Mali Samega. Et je pense que je peux être fière aujourd'hui de faire partie de ce collectif parce que nous avons réussi à avoir l'un des prix d'Internet les plus bas dans la sous-région.
Et c'est quoi ce collectif?
Nous militons pour la baisse du prix de l'Internet au Mali parce qu'au Mali 2012-2013, Internet était vraiment trop cher. Et moi, je me rappelle en tant que blogueuse, pratiquement la moitié de mon salaire partait dans l'achat de crédit téléphonique pour alimenter le petit combiné Ouassa que j'avais. Avant, 1 giga, c'était 10 000 francs CFA. Maintenant, avec 10 000 francs CFA, avec les combinés, là, vous pouvez avoir jusqu'à 25 gigas.
10 000 francs CFA, c'est à peu près 15 euros.
Oui, et l'Internet mobile, 10 000 francs, c'est 10 gigas Internet. Donc vraiment, il y a une grande différence. Et vraiment, avec 10 000 francs CFA, vous avez de quoi être connecté tout un mois.
Et donc, vous avez même fondé un incubateur qui vise à réduire la fracture numérique au Mali.
Oui, oui. L'incubateur s'appelle Sankore Labs. Il est basé à Tombouctou. C'est dans une zone vraiment d'insécurité. Mais c'est l'insécurité et mon activité de blogueuse, d'activiste web qui m'a fait comprendre que Internet est trop important pour nous dans notre contexte. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à chercher à créer un tiers-lieu où les jeunes peuvent avoir accès de façon gratuite à Internet. Même si nous nous retrouvions dans la même situation qu'en 2012, nous aurons des armes ou bien nous aurons un lieu à partir duquel on pourra donner des informations, on pourra s'en sortir, appeler à l'aide, ne serait-ce.
Alors justement, je voudrais comprendre la place des civic tech dans des contextes politiques sous pression. Comment vous vous servez de ces outils, de ces technologies pour informer?
Nous sommes toujours connectés. Nous sommes en réseau. D'abord, la première des choses, c'est établir des projets qui permettent de former le maximum de jeunes à l'utilisation de ces outils. C'est faire comprendre aux jeunes qu'on peut utiliser un hashtag, des photos pour dénoncer une situation. Et lorsque on met un hashtag, lorsque on établit une campagne digitale ensemble, ça a plus de répercussions et cela peut avoir de l'impact sur les dirigeants parce que les dirigeants sont obligés de suivre non seulement les médias sociaux, mais aussi de suivre ce que disent les influenceurs et autres activistes. Quand vous prenez Tombouctou, c'est d'abord Sankore Labs qui a fait ça, c'est que Tombouctou est l'une des régions les plus connectées au Mali.
Vous avez vraiment fait bouger les choses, l'accès à Internet.
À Internet, oui. Ne serait-ce que ça. Et en plus, vraiment, les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour dénoncer, pour réclamer même des choses. À Tombouctou, en 2019, par exemple, nous sommes partis d'une page Facebook, Tombouctou veut une route, pour nous retrouver avec une grande mobilisation de toute la ville pour réclamer vraiment que le gouvernement du Mali éclaircisse la situation de la route vers Tombouctou. Parce que nous avions appris que le gouvernement avait alloué les fonds qui étaient destinés à la réalisation de la route Tombouctou vers Niono, qu'on appelle Goumakoura. Les fonds avaient été alloués à d'autres régions. Et là, nous n'étions pas d'accord. Nous sommes partis d'une page Facebook. On a créé des groupes WhatsApp. Nous avons fait des réunions sur place, voir comment mener le plaidoyer. Il y a non seulement ceux qui contestent, qui manifestent sur le terrain, mais il y a toujours des jeunes qui prennent des photos, qui font des vidéos, qui vraiment appellent les autres jeunes à les rejoindre avec des slogans. Et là, plusieurs ministres sont venus à Tombouctou, à l'aéroport, pour parler avec les jeunes. Et tout ceci se passe directement sur les réseaux sociaux.
Donc ça veut dire quoi? Que dans une région comme Tombouctou, le poids des civic tech et l'importance aujourd'hui des civic tech, c'est surtout les réseaux sociaux?
Oui, c'est surtout les réseaux sociaux. Parce que les gouvernants écoutent, c'est un peu leur baromètre. Tout se fait sur les réseaux sociaux et notre influence même, c'est à partir des réseaux sociaux. Quand vous dénoncez des choses directement, que ce soit Facebook, WhatsApp, marche beaucoup au Mali, ça a beaucoup plus d'impact.
En quoi les civic tech, elles sont essentielles pour vous, Fatouma, au Mali aujourd'hui, dans le contexte dans lequel vous êtes à Tombouctou?
Il n'y a aucune route qui nous relie aux autres parties du monde. Et vraiment pouvoir communiquer, utiliser les civic tech pour demander de la redevabilité, ça nous permet de continuer à vivre et à vivre décemment et à participer au développement de notre ville. Les choses ont beaucoup évolué. Nous avons non seulement l'association des blogueurs, Doniblog, qui dispose d'une plateforme de blogging où vraiment il y a plus de 100 blogueurs qui tous les jours écrivent des articles et vraiment partagent leur avis sur la vie de notre pays, leur avis sur la transition, sur la démocratie. J'ai aussi, maintenant je suis rédactrice en chef d'un journal en ligne qui s'appelle Sahel.news. On a aussi un site de fact-checking, Sahel Check. On fait beaucoup de vérifications des faits parce que, carrément, dans le contexte politique malien, la diffusion des fausses informations a pris beaucoup d'ampleur et cela a des répercussions directes sur les populations. Donc, on essaie vraiment d'informer les populations, de former au maximum des personnes sur le fact-checking aussi, les journalistes, faire des vidéos. Avec Sans Corrélas, par exemple, nous offrons beaucoup, vraiment, de former le maximum de jeunes sur les outils multimédia. Vraiment faire de la photographie avec le téléphone, prendre une photo, traiter la photo, signer sa photo, produire un petit texte qui accompagne la photo, pour ensuite vraiment utiliser aussi les hashtags qui vont avec, pour ne serait-ce qu'interpeller. Quand il y a une manif, quand les jeunes se révoltent, ou bien ne serait-ce que quand les jeunes se concertent, ça se fait toujours à Sans Corrélas. Même quand ce n'est pas à Sans Corrélas, Fatouma est là pour non seulement guider, donner l'avis et aussi aider les jeunes à mieux cerner le problème. Comment faire le plaidoyer et comment utiliser les outils.
Et est-ce que les choses changent justement? Est-ce que vous avez l'impression que ça fait changer les choses, bouger les lignes?
Oui, carrément, les lignes bougent. À Tombouctou, il y a des problèmes de connexion, de connectivité même. On s'est retrouvé, par exemple, pendant 3 mois coupé du monde où il n'y avait aucun réseau Internet. Même pour un simple appel. C'était de juillet jusqu'en octobre 2021. Et là, avec les jeunes, on a fait une campagne en ligne avec le hashtag Yerfara. Yerfara veut dire « nous sommes fatigués ». Nous sommes fatigués, ça fait 3 mois, nous ne pouvons pas appeler, nous ne pouvons même pas faire de transfert mobile money, alors que Bamako est tranquille. C'est comme si nous, population de Tombouctou, n'existions pas ou bien le gouvernement ne nous accorde pas de l'importance. En plus de la campagne en ligne, on s'est retrouvés, on a organisé une marche carrément, jusqu'au niveau du gouvernorat et C'est moi qui ai lu, en fait, notre mémorandum. Quand vous m'entendiez, vous avez l'impression que je menace, quoi. Mais en réalité, ce ne sont pas des menaces, mais c'était pour leur dire qu'il y en a marre. Nous aussi, nous sommes des vies. Nous voudrions vraiment avoir accès aux mêmes services. Dites à ces sociétés-là d'arranger le problème. Parce qu'ils disent quoi, ce sont les groupes armés ou bien des bandits armés qui ont saccagé les pylônes, qui ont emporté les plaques pour solaires. Mais cela ne nous engage pas. S'ils les ont emportés, remplacez-les. Nous n'allons pas continuer à souffrir comme ça, à dire que bon, ça ne va pas, et ils font du business sur notre dos. Ouais, c'est des choses comme ça qu'on fait à Tombouctou et ça marche parce que bon, après la manifestation et la campagne, nous avons eu un rétablissement du réseau quand même. Même si Internet va et vient, au moins vous pouvez émettre quand même un appel téléphonique.
Donc pour bien comprendre, dans un contexte politique compliqué comme aujourd'hui au Mali, les principaux outils dont vous vous servez, vous, web activiste, militante, ce sont les réseaux sociaux. Oui, sans oui. Ça, vous seriez coupée d'expression et d'information?
Oui, oui, pratiquement. Ce sont uniquement les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas tellement accès aux médias d'État et il faut le dire, la télé nationale ou bien qu'elle soit privée, ce n'est pas facile dans le contexte sécuritaire. Et sincèrement, il y a de ces presses même que j'essaie d'éviter. Parce que vos propos peuvent vous mettre en danger. Un journaliste ou bien une web activiste qui vit à Tombouctou ne peut pas s'exprimer comme quelqu'un qui est tranquillement assis à Bamako. Donc il faut faire attention à ce que tu dis. Mais quel que soit le contexte politique, je donne toujours mon avis sur ce qui est en train de se passer dans mon pays et dans ma ville. Et j'interpelle beaucoup les autorités sur des questions directes, à savoir les élections. Quand est-ce qu'on va nous faire ces élections-là? Parce que lorsqu'il y a eu le coup d'État, on a beaucoup applaudi, mais nous ne savions pas ce qui nous attendait. Et là, maintenant, on sait que, bon, c'est autre chose. La présence d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui vous menacent ou bien qui essayent vraiment de saboter votre travail ne vont pas faire que je ne vais pas exprimer mon avis ou bien essayer d'aller au débat sur ces questions-là. Et nous n'allons pas tout accepter, dire que bon, c'est un régime militaire qui est là. Accepter le régime d'exception et accepter la dictature comme ça, ça ne passera pas. Il est important en tant que web activiste, en tant que citoyen engagé, de rester vraiment au contact des autorités. Je pense que c'est comme un devoir pour nous.
Pourquoi?
Parce que la population ne suit pas ces politiciens comme nous les suivons. Et je pense que c'est notre rôle d'informer et d'alerter grâce au Civic Tech, les populations, les jeunes qui l'utilisent sont toujours interconnectés. Moi, en 2012, j'avais l'impression d'être seule à crier dans mon désert. Et là, maintenant, je ne suis plus seule. Nous construisons notre avenir ensemble grâce au Civic Tech.
Fatouma Harber, enseignante, blogueuse et militante infatigable vivant à Tombouctou, au Mali. Elle a reçu l'an dernier le prix de l'engagement citoyen du collectif Africtiviste. Respect, Fatouma. Vous écoutez l'atelier des médias de RFI consacré au Civic Tech au Mali. Si les émetteurs de notre radio, nos sites internet et applications ont été coupés au Mali à la demande des autorités en place à Bamako, il est toujours possible de nous écouter en direct sur YouTube ou via les ondes courtes. Je salue celles et ceux qui nous suivent ainsi en attendant des jours meilleurs. Écoutons maintenant une autre voix qui porte dans le secteur du numérique au Mali, celle de Tidiani Togola. Physicien et informaticien, il a créé en 2015 la fondation Too Windy, spécialisée dans les civic tech, avec pour objectif d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour soutenir le développement économique et social en Afrique. Raphaël Constant s'est entretenu avec lui fin juin à Abidjan pour mieux comprendre les problématiques rencontrées par les civic tech au Mali et dans la sous-région. Elle a commencé par lui demander comment allier civic tech et médias.
Alors, les civic tech, si vous voulez, constituent le support, c'est le contenant. Les médias, notamment au travers de leurs acteurs, eux, c'est vraiment le fournisseur d'informations. Les civic tech doivent être au service des acteurs de médias et au service des médias d'une manière générale pour que les acteurs médiatiques puissent faciliter l'accès à l'information des citoyens, d'une part. D'autre part, s'assurer que cette information à laquelle le citoyen accède soit de l'information propre, donc de l'information qui ne soit pas intoxiquée. Et cela, à mon sens, est très, très important. Donc, ça va être extrêmement compliqué de dissocier Civic Tech et médias.
À travers votre fondation, Twinzy, vous développez par ailleurs les médias. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, le développement média pour nous, c'est trois aspects. Le premier, c'est le renforcement de compétences des acteurs de médias. Il s'agit des journalistes, des acteurs qui interviennent tels que des blogueurs. Et le deuxième aspect, les données, les capacités, les moyens techniques. Ça passe par des logiciels spécialisés qu'on développe pour eux et des formations sur des logiciels spécialisés.
Comme quoi, par exemple ?
Voilà, comme on a un logiciel spécialisé aujourd'hui qui s'appelle Ouya, qui permet justement de lutter contre les fausses informations en détectant les fausses informations, en les traitant et en rendant public les résultats des informations cherchées, ou encore MediaScan, qui permet de faire le monitorage des médias d'une manière générale, que ce soit radio, télé. Donc sur la base de ces monitorages, on peut traiter de l'information sur différents angles. Et ces résultats sont utilisés par des journalistes pour pouvoir justement fournir de la bonne information. Et il y a aussi les aspects de formation. Il s'agit notamment le journalisme d'investigation et le journalisme sensible au genre. Ça, c'est deux thématiques qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et le troisième volet de l'action de développement média pour nous, c'est la sécurité des acteurs de médias, notamment en les formant déjà sur les questions de cybersécurité. Deuxième chose, en les formant sur la sécurité des journalistes d'une manière générale. Et aussi pour ceux qui sont dans la détresse, on veille à ce qu'ils puissent accéder à des ressources. Ça peut être de l'assistance juridique ou encore de l'assistance sanitaire, notamment avec nos partenaires. C'est le genre de choses que Twinzy fait dans le cadre du développement média.
Mais alors, pour bien comprendre à quelle problématique, justement, vous répondez dans le contexte malien ?
Alors, dans le contexte malien en particulier, aujourd'hui, où c'est vraiment une situation politique particulière qui est assez compliquée, notre travail, c'est de faire en sorte que le citoyen accède à l'information déjà. Et deuxième chose, c'est de s'assurer que les informations qui circulent sont de l'information vraie. Une troisième chose, c'est de reconnaître l'excellence de journalistique au travers d'une compétition qu'on a appelée les Mali Media Awards. Et ça nous a permis de constituer un réseau de journalistes qui travaillent suivant des règles éthiques et déontologiques. Et nous nous assurons à chaque fois que besoin sera de les accompagner pour qu'ils puissent faire dignement leur travail. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est un véritable défi. Et nous engageons énormément de plaidoyers pour que l'espace médiatique soit propre, soit un espace crédible et que ça soit un espace qui ne soit pas contrôlé par des acteurs politiques ou économiques, des choses comme ça. On se bat quand même pour les aider.
Tidiane, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre projet Twinzy ? Quand est-ce qu'il est né et dans quel contexte ?
Lors des élections de 2013 au Mali, j'ai travaillé avec la société civile malienne pour mettre en place un logiciel qui permet de collecter et de traiter en temps réel les données d'observation électorale. Donc à l'issue de ce processus aussi, je suis allé aux États-Unis au NED, National Endowment for Democracy. Mon travail principalement consistait au NED de faire de la recherche sur l'utilisation des technologies dans le domaine des élections. Donc, à l'issue de ce séjour, j'ai décidé de revenir en Afrique et surtout chez moi au Mali, où je me rendais compte qu'il y avait un véritable besoin d'utiliser les technologies au niveau de la gouvernance et de la démocratie. Et donc, j'ai créé la fondation Twinzy. Et quand Twinzy était créée, on s'est donné pour mission de soutenir déjà la démocratie et la bonne gouvernance, de développer les médias et de faire en sorte que l'économie numérique aussi puisse avoir de l'envol. Et j'ai eu la chance, je pense que c'était en 2017, 2016-2017, lors de la toute première édition de Connexion citoyenne, où j'avais présenté un projet qui s'appelle Mon Élu, une application mobile qui a pour objectif de faire en sorte que les citoyens et les élus puissent communiquer. Donc finalement, faciliter l'échange entre les dirigeants et les citoyens, notamment en termes de construction, en termes de résolution de problèmes.
À quels problèmes vous vouliez répondre ? Quels étaient justement les problèmes des citoyens ?
Eh bien, le premier problème des citoyens, c'était de faire en sorte que le citoyen puisse s'adresser aux dirigeants. Parce qu'il n'y avait pas un moyen, une communication directe qui permet aux citoyens de participer au développement de la cité. Il n'y a pas un mécanisme qui lui permet de faire de la co-construction de la cité. Et ces types de besoins étaient là. Il y avait aussi les enjeux liés à la transparence. Par exemple, quand les taxes sont collectées, comment on rend compte aux citoyens de l'utilisation de ces taxes. Tout ça était là. Il y avait ces types de défis. Et dans le processus de développement de ces réponses technologiques, l'erreur que nous avons commise, c'est que la solution, elle a été conçue sur des hypothèses que nous, on avait des citoyens, sur des publications qui n'étaient pas vraiment en adéquation avec la réalité des citoyens. Et la deuxième erreur, c'était qu'on a développé des outils qui ne prenaient pas en compte le niveau réel du citoyen. Donc, qui était un peu trop en avance par rapport à ce que le citoyen voulait faire. Donc, on avait de bonnes intentions. Un des exemples concrets de cette application, quand on avait développé, c'était qu'on n'a pas du tout tenu compte le fait que quand un citoyen veut prendre la parole et qu'il est très, très frustré, sa première fois de parler peut vraiment être grave. Bon, nous, on a dit non, liberté, il faut laisser les gens s'exprimer et tout. On n'a pas suffisamment tenu compte de cela. Et donc, à l'époque, on travaillait avec l'Assemblée nationale. On avait formé certains députés et puis on a lancé l'application. Donc, la première fois que les citoyens se sont adressés aux élus, c'était vraiment dans des mots qui étaient plutôt peu courtois. Et puis, les élus étaient frustrés. Donc, finalement, on s'est trouvé dans une situation où, OK, on a lancé une application, on ne peut plus arrêter l'application. C'était très dur pour nous. Et évidemment, on a appris avec les autres versions. On a mis plus de mesures de sécurité, notamment avec des contrôles de mots, pas mal de choses comme ça.
Qu'est-ce que les Civic Tech vous ont appris depuis 7 ans?
Eh bien, dans le domaine des médias, ce que les Civic Tech m'ont appris, c'est d'abord que les technologies ne sont qu'un simple outil et qu'il y a un travail énorme qu'il faut faire sur le volet humain. C'est-à-dire que quand on fait des outils et que les gens qui utilisent ces outils ne sont pas suffisamment formés, ils ne sont pas suffisamment éduqués aux médias, ils deviennent rapidement manipulables, perméables à toutes sortes de fausses nouvelles, à toutes sortes de propagandes. Il y a un grand travail à faire dans le domaine des médias.
Ça, c'est les limites que vous avez rencontrées avec votre projet Too Windy?
Ça, c'est vraiment des limites qu'on a rencontrées, notamment quand on a commencé à lutter contre les fausses informations. On s'était rendu compte que autant on avait de l'énergie à fournir sur les professionnels pour qu'eux, ils sachent donner de la bonne information, autant il y avait le même besoin de fournir d'efforts pour former les citoyens qui, malheureusement, étaient exposés à différentes sources d'informations et qui ne savaient pas comment trier le vrai du faux. Et malheureusement, les fausses informations sont souvent sensationnelles et arrivent et sont beaucoup plus virales. Et donc ça, c'était vraiment un gros défi que nous, on a appris. Un deuxième élément qui est important, à mon sens, c'est l'implication aussi au niveau juridique, notamment au niveau texte législatif. Il existe des textes qui posent véritablement problème quand on veut faire de l'accès à l'information. Au Mali, on a un texte sur la cybercriminalité. Ce texte, bon, personnellement, je trouve que c'est bien qu'on puisse mettre des textes pour réguler un secteur, mais il ne faut pas non plus que le texte puisse avoir des caractères liberticides, parce que c'est ce qui va faire finalement que l'information ne pourra plus être accessible et tout.
C'est vrai qu'en Afrique, énormément de citoyens ont œuvré pour la dépénalisation des délits de presse, et on observe aussi, dans certains pays africains, un glissement justement vers ces lois contre la cybercriminalité, qui du coup serait assez large et qui permet de censurer finalement pas mal d'acteurs des médias en ligne.
Exactement, c'est ce qui se passe. Il y a non seulement ces textes qui bloquent les acteurs des médias en ligne, mais il y a aussi d'autres textes qui sont souvent votés pour lutter contre le terrorisme. Et le gros souci, c'est que les causes qui sont présentées sont certes noble, mais le gros problème, c'est que les textes sont montés tellement sur mesure souvent et entre de mauvaises mains, ça peut vraiment devenir très difficile. Donc la résistance au changement au niveau étatique aussi est quelque chose que nous avons constaté. Il y a un autre facteur de blocage qui est l'accès même à l'outil numérique. Aujourd'hui, si tu prends la plupart des projets Civic Tech, ce sont des projets qui sont sur téléphone mobile ou qui sont sur le web. Le coût d'accès à l'Internet reste encore cher dans les pays d'Afrique subsaharienne et particulièrement dans mon pays, c'est encore cher pour les citoyens lambda.
Cher et aussi très centralisé dans les grandes villes.
Exactement. Et c'est nécessaire que des efforts se fassent encore pour un peu plus d'inclusion. Que ça soit en termes de langue ou en termes d'outils, mais il faut de l'inclusion numérique. L'autre facteur, c'est la confiance numérique. Malheureusement, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, finalement, il y a une sorte de difficulté à faire confiance. On doit bâtir la confiance numérique. Et pour cela passe à la fois par une sensibilisation sérieuse, une meilleure sécurisation, étant donné que personne n'est suffisamment éduqué, même les plus grands intellectuels souvent ne sont pas suffisamment éduqués au numérique, alors ils sont exposés dans un environnement qui est dangereux et qui finalement va créer une crise de confiance digitale et en notre sens, les porteurs des projets Civic Tech doivent intégrer ces deux volets, l'inclusion et la confiance.
Donc là, vous venez de nous exposer, j'ai envie de dire, les problématiques et les limites, en tout cas aujourd'hui, et puis surtout les défis des Civic Tech en Afrique. J'aimerais que vous nous parliez des succès que vous avez rencontrés avec les Civic Tech vraiment dans le domaine des médias.
On peut considérer le fait que grâce au monitorage des médias, c'est suivre ce qui se passe dans les médias suivant un certain nombre de critères. Nous, dans notre cas spécifique, on regardait plus sur les critères liés au contenu en lien avec le genre. Donc, nous avons mis en place un outil qui s'appelle MediaScan, suivant un ensemble de critères. Et donc, ces critères, c'était principalement la source, la représentativité homme-femme, le niveau d'exposition de l'information, le type de média par lequel l'information est passée. Et cela a permis de mettre en place des actions concrètes, qu'il s'agisse de la formation de journalistes femmes, de la mise en place de ce qu'on appelle une norme qui permet aux organes de médias d'être de facto sensibles au genre. Ça, c'est des choses. Sans les Civic Tech, ça serait très, très difficile parce qu'on ne peut pas collecter des données avec une grande célérité si on ne dispose pas aussi d'outils numériques pour pouvoir le faire. Pour nous, ça, nous considérons ça quand même, nous sommes assez fiers de ce résultat parce que même au niveau souvent des organes de régulation, il n'y a pas une telle célérité de traitement dans ce type de processus. Donc vraiment, les Civic Tech accompagnent les médias de manière très concrète.
Et au Mali, dans votre pays, quelle place, quelle visibilité existe aujourd'hui pour les Civic Tech dans les médias en Afrique ?
Alors, nous sommes dans le process, ça fait 7 ans aujourd'hui, mais il faut dire que d'une manière générale, c'est encore les balbutiements, on peut dire, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième problème, les Civic Tech ne sont pas bien compris. Et comme Civic Tech aussi, ça implique souvent de s'intéresser au processus de gouvernance politique, démocratique. Donc, leur utilisation, c'est encore un peu difficile. Et donc, aujourd'hui, c'est clair que c'est un défi à la fois pour les porteurs de projets Civic Tech, mais aussi au niveau des solutions qui sont utilisées en termes de durabilité de ces projets. Et cela m'amène à parler de l'intérêt même pour les bailleurs, donc les partenaires techniques et financiers, même s'ils sont ouverts à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, souvent l'initiative considérée comme dans une démarche complètement Civic Tech n'est pas nécessairement bien accompagnée. Donc ce qui fait que les projets Civic Tech restent encore des projets pilotes avec des gros défis de durabilité et comme c'est des nouvelles initiatives souvent, les Civic Tech vont rapidement être butés par des problèmes d'acceptation, même au niveau de la communauté. Donc, mais si aujourd'hui...
C'est-à-dire d'acceptation?
Le problème d'acceptation, c'est qu'on introduit une nouvelle technologie dans une communauté qui viendra bouleverser le fonctionnement normal de la communauté. Et le bailleur, lui, il veut que ton projet soit sur 1 an. Donc toi, tu vas mettre 6 mois à convaincre le bénéficiaire que ce projet n'est pas contre lui, mais c'est pour lui et tout. Et au finish, tu risques de ne pas donner le résultat escompté et cela peut frustrer le bailleur, hein. Ça peut frustrer le donateur. Donc ça, c'est un vrai souci. Et je pense que si les acteurs médiatiques concourent à mieux les faire comprendre pour que les populations, aussi bien que les dirigeants, les jeunes aussi qui sortent de l'université puissent s'intéresser au sujet et puissent s'engager dans ce processus, ça donnera de meilleures chances aux Civic Tech d'émerger. Et le dernier point, expliquer aux dirigeants que les Civic Tech sont une opportunité pour mieux développer nos pays, que ce soit en termes d'apport technologique, en termes de création d'emplois et même en termes de création de richesses. Donc, en la matière, je les encourage et je plaide pour qu'ils accompagnent les acteurs, les porteurs de projets Civic Tech.
Oui, les Civic Tech sont une opportunité. C'est les mots de Tidiani Togola, dont la fondation Too Windy accompagne le développement des médias et agit concrètement pour soutenir des projets numériques bénéfiques au plus grand nombre. Merci à Raphaël Constant qui a mené fin juin à Abidjan les 2 entretiens que vous venez d'entendre. Ils sont disponibles en version longue sur le podcast de l'Atelier des médias. C'est la fin de cette émission réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des médias, abonnez-vous gratuitement sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore l'appli Radio France pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse atelier@rfi.fr ou en m'envoyant un message sur Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.
Papa, my own. And once it then, yeah. And once it then, yeah. Abu Bronco, yeah. I did bay and said, oh, we are so mean. I feel now when you are pretty, yeah. I feel now when you are pretty, yeah. Now I can say, what did you mean? Say me. Not the piano, I'm sad. I'm sad. I'm a fool. Oh, that you give me, oh, that you give me, oh, that you give me. Ajeje mi kongo so Abuja mi su meni o Oda jeje mi oda jeje mi oda jeje mi Ajeje mi kongo so Abuja mi su meni o Ajeje mi kongo so Abuja mi su meni o.